Le lendemain, mercredi 15, les Unes alliaient l'étape alpestre du Tour de France avec la performance fabricienne au Stade de France. Fabrice en jaune, le forçat de Proust. Pendant la grande boucle, Pelletier va boucler la boucle. Fabrice ne la boucle pas. Un tour du côté de chez Proust. Proust, quel numéro de dossard? La palme revenait à Tour et Stade, Fabrice de France. Dès 9 h, l'enceinte de Saint-Denis résonnait de l'idée qu'un musicien moderne se faisait de la petite phrase de Vinteuil. C'était l'ensemble baroque de Limoges, venu du château de Laborie, qui la jouait. Accueillant les vagues de spectateurs qui s'asseyaient sur l'herbe ou les gradins, au plus près de la scène immense où Fabrice n'était apparu ni minuscule ni ridicule, tant sa voix réussissait à emplir le stade. À son entrée, à 10 h, une ovation l'accueillit, le saisit, et il s'appuya sur elle pour commencer. Il se fit porte-parole du héros, révélant qu'il n'y a que 2 personnes, un couple, à ne pas être fictif dans ce livre, où tout a été inventé. Étonnant procédé littéraire qui lui fait ajouter. C'est avec un enfantin plaisir et une profonde émotion que je transcris ici leur nom véritable. Il s'appelle d'un nom si français d'ailleurs, La Rivière. Et qu'ont-ils fait ces La Rivière pour mériter ce traitement particulier de faveur? Anciens cafetiers retirés fortune faite, ils se sont remis à la tâche pour remplacer un neveu tué à la guerre qui laisse une veuve pour tenir le bar. Ils ont trimé du matin au soir sans réclamer un sou pour venir en aide à une jeune femme qui ne leur était rien. Honneur donc à ces La Rivière. Pour commencer la journée, devant cette histoire, les gradins étaient émus. D'autant plus qu'on apprenait la mort de Saint-Loup à peine reparti pour le front, ce qui fit jaillir les souvenirs du héros. Il pleure un ami qui, comme Albertine, lui disait en prenant soin de lui, « Vous qui êtes malade. » Ainsi s'achevait dans la mélancolie le chapitre 2, tandis que commençait la projection des toiles et sculptures citées dans l'œuvre. Pendant les pauses, le public allait et venait dans ce huis clos à ciel ouvert, ce décor d'exploits physiques aujourd'hui voué au verbe. Ça et là, des étals proposaient des trucs et des bidules à l'effigie de Proust, ainsi que des éditions neuves ou d'occasion de son œuvre. On marchait un livre à la main et plus d'une fois, un vaste murmure accompagnait Fabrice dans son interprétation par les voix mariées des spectateurs. Le héros du lieu ne se doutait pas que ce cortège sonore allait s'amplifier. Le reste de la journée allait le lui apprendre. Dans son annonce, le présentateur de Gennevilliers expliqua que les années ayant passé, il fallait corriger ses connaissances. Ainsi, qu'en fait de Princesse de Guermantes, il fallait désormais lui donner les traits de la nouvelle, l'ex-Madame Verdurin. C'est un héros démoralisé qui quitte sa maison de santé pour rentrer à Paris, frappé par son absence de dons littéraires. Chez lui, il trouve des invitations, dont une pour un goûter donné par la Berma et une autre pour une matinée, entendez le mot dans son sens moderne de réunion l'après-midi, chez le prince de Guermantes, avenue du Bois. Se rendant à cette fête, il tombe sur un Charlus méconnaissable, cheveux et barbe blancs, les yeux sans éclat, le geste difficile, timide et peureux de ceux que la mort a déjà fait entrer dans son ombre. C'est après que Fabrice eut raconté cette rencontre que le bruissement vocal s'accentua. Le moment était fort, puisqu'il offrait une autre Madeleine, un de ces instants dérisoires d'où fut un passé oublié. Les pavés disjoints de la cour de l'hôtel. Il venait de dire « Je reculai assez pour buter malgré moi contre des pavés assez mal équarris. » Quand le public s'invita, puis s'imposa, d'abord à voix basse, puis de plus en plus distinctement, jusqu'à la voix pleine et haute, des centaines de spectateurs s'ajoutèrent à lui, au point de faire partie de lui et finalement de se substituer à lui. Fabrice eut la perspicacité d'effectuer un mouvement simultané et inverse, baissant peu à peu la voix jusqu'au susurrement, mais sans jamais se taire tout à fait. Des arbres près de Balbec, les clochers de Martinville, la Madeleine, des sensations, les œuvres de Vinteuil, la félicité, ses doutes intellectuels dissipés, des images rendant la mort indifférente. Sur ces derniers mots, dans une lucidité collective, la foule comprit qu'elle devait redevenir attentive et silencieuse. Cette unisson avait duré 2 minutes et Fabrice le salua de longs signes de tête exprimant reconnaissance, louange et fraternité. Il s'agissait bien de cela, d'innombrables esprits communiant autour de deux hommes, l'auteur et son interprète, dont il se sentait parent très proche. Dans les heures qui suivirent, d'autres signes dessillèrent les yeux du héros. Chaque fois, des spectateurs se faisaient compagnons de voix basse de Fabrice. Au fil des pages, l'écrivain contrarié évoluait grâce à ses réflexions sur la vie et l'art, agrémentées d'intimités troublantes telles que « Moi, qui ne suis pas le moi qui l'ai vu et qui doit céder la place au moi que j'étais, alors, afin qu'il appelle la chose qu'il connut et que mon moi d'aujourd'hui ne connaît point. » Fabrice achevait à 14h30 la deuxième de ses 5 interventions prévues. L'heure et demie de pause mise à profit pour montrer de nouvelles visions des tableaux d'Elstir et faire entendre de nouvelles interprétations des œuvres de Vinteuil, ne serait pas de trop pour qu'il retrouve un rythme intérieur apaisé.